ne faut pas s'attarder. Quand je dis l'âme, le principe radical de vie, ça je précise. Et symboliquement, je peux dire, c'est l'âme qui creuse en moi une intériorité. Et plus mon âme est présente, plus mon intériorité est forte. Plus je suis capable d'aimer, plus je suis capable de m'aimer, plus je suis capable. Et alors, un monde qui devient uniquement un monde d'extériorité, où il n'y a plus d'intériorité, on supprime les traditions religieuses, on supprime l'élaboration, on supprime l'amour d'amitié, on supprime l'amour de soi, c'est un monde sans âme. Vous avez des automates, vous avez des gens uniquement qui sont des fonctionnaires d'efficacité. C'est un monde d'automates. L'âme disparaît. Alors à ce moment-là, je comprends très bien. Vous comprenez que c'est philosophiquement de vouloir justifier ce monde sans âme. Et l'âme n'existe plus. On a tué Dieu, on a tué l'âme. C'est ce qu'on a dit, du reste. Hein. On a tué Dieu, on a tué l'âme. On a dit on a tué Dieu, on a tué l'homme. Ce serait plus juste de dire on a tué Dieu, on a tué l'âme spirituelle. Parce qu'on n'a pas tué l'homme. On a tué l'âme spirituelle. Et on a identifié l'homme uniquement dans ses fonctions d'efficacité. Et vous jugez l'homme en fonction de ce, en dépendance de ses fonctions d'efficacité. Un homme, il vaut tant. La première fois que j'étais au Canada, je me souviens, c'était l'impression que j'ai eue. Je visitais avec un bon dominicain à Montréal, puis alors il me dit, ah, celui-là, il vaut tant. J'ai mis un certain temps avant de comprendre, n'est-ce pas? C'était en 50. Celui-là, il vaut tant. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement par ça? Mais je veux dire, c'est ce qu'il gagne pas à pas, il vaut tant. Il n'a pas dit à un moment, oh, celui-là, c'est un saint. Hein? Pour un homme bien, il aurait pu me dire ça. Là, il y a une belle âme, il y a quelqu'un qui vit admirablement. Non, pas ça, il vaut tant. Alors, vous jugez en fonction de l'efficacité, en fonction de la valeur. Alors, il n'y a plus d'âme. Et c'est très vrai que quand vous êtes pris uniquement dans l'efficacité, petit à petit, la présence de l'âme disparaît. On sent très bien quand on est en face d'un automate, en face d'un fonctionnaire. Un fonctionnaire qui n'est qu'un fonctionnaire, hein, vous comprenez bien, parce qu'il y a des hommes qui sont de merveilleux fonctionnaires. Mais un fonctionnaire qui n'est qu'un fonctionnaire, vous voyez, un homme qui n'est qu'un fonctionnaire, si vous lui posez la question exacte, qui est dans ce qu'il doit faire, il répondra exactement ce qu'il doit répondre. Si votre question est en dehors, je ne sais pas, je ne vous regarde pas. C'est tout. Alors, c'est pour ça que la découverte de l'âme au plan philosophique, c'est quelque chose de capital. Une fois qu'on comprend, l'intelligence est capable de découvrir cela, on se dit, ah oui, c'est nécessaire qu'il la philosophie. La philosophie, c'est pour essayer de découvrir, de déceler cette source cachée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette source cachée? Parce que j'ai vu les trois connaissances, les trois manières, les trois halos affectifs, puis je découvre par un procédé inductif, c'est ce procédé inductif. Le procédé inductif, c'est très facile à comprendre, hein. C'est le levier de ma connaissance. Procédé inductif. Je vois la multiplicité et l'unité, je dis, mais nécessairement, s'il y a une unité dans cette multiplicité, il faut qu'il y ait une source. Et c'est cette source que j'essaie de regarder. Qu'est-ce que c'est que cette source? C'est l'âme. Alors, une fois que j'ai découvert cette source, je réfléchis en disant, l'âme, elle est forme du corps, elle est l'acte du corps, elle est la fin du corps. Voilà les trois grandes affirmations que je dois dire par rapport à l'âme et au corps. Ça, c'est évident, ça me fait beaucoup de temps. Je suis obligé d'aller assez vite. Hein. Dans le programme, ce sera pas. Mais j'aime mieux pour te dire une seule chose. Si à la fin de cette session, vous aviez une vision de votre âme, ce serait admirable. Vous n'aurez pas de vision. Hein. Parce que l'âme est cachée, c'est pas? Mais la vision de l'âme de votre voisin, quelle belle âme! J'ai jamais cru ça, parce que le visage est inadéquat à l'âme intérieure. C'est vrai, c'est très vrai. Notre visage ne correspond pas toujours à notre âme. C'est Léonard de Vinci qui dit. disait qu'à partir de 45 ans, notre visage devait correspondre à notre âme. Ça, c'est l'artiste qui dit ça. C'est pas parce que c'est pas tout à fait vrai. Mais il y a l'atavisme, que voulez-vous. Et notre âme dépend directement de Dieu, et l'atavisme ne dépend pas directement de Dieu. Il y a eu des tas de causes entre deux. Il y a eu des arrière-oncles qui étaient des chapons entre deux. Alors, si. Il y a de la boue, que voulez-vous. C'est de la boue, des quantités de boue. Chacun d'entre nous. On a tous dans ses ancêtres un fou, un brigand, un pirate, un saint. Un saint. Et on est tiré de ça. Et Dieu directement crée notre âme. Notre âme immortelle est immédiatement créée par Dieu. Nous y reviendrons là-dessus. Alors, je veux comprendre ici les relations entre le corps et l'âme. L'âme, prenez le mot source de vie. Je crois que c'est ça qui. Source jaillissante. Hein, c'est une source jaillissante, l'âme. C'est extraordinaire. Ça rejaillit tous les matins. Il y a des moments, ça jaillit un peu trop. Ça jaillit un peu trop. Alors, le voisin, il y a un tout petit peu trop. Il y a un peu de calme, un peu de calme. Mais c'est une source de vie. Source de vie. Alors, cette source de vie, elle est source de vie pour le corps. L'âme est la forme du corps. Première affirmation. La forme substantielle du corps. Alors ça, c'est très très beau de dire ça. La forme substantielle du corps. L'âme est la forme vivante. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que l'âme est la forme substantielle du corps? C'est que je ne peux pas connaître le corps humain sans connaître l'âme. Alors ça, évidemment, c'est un très gros coup pour la science biologique. Je me souviens avoir dit ça une fois dans un séminaire à Fribourg, en essayant de faire comprendre un peu ce que c'était que l'âme. Il y avait dans mon cours, je le savais, un Espagnol, docteur en biologie de Genève, qui était en même temps assistant à Genève, qui était un homme merveilleux, un grand d'Espagne, un grand d'Espagne qui avait de la race. Alors je dis ça. Alors j'ai vu le plaignir. Il m'a dit, ben là, qu'est-ce que c'est que la connaissance biologique? Moi qui suis docteur, je croyais connaître le corps de l'homme. Vous ne connaissez pas le corps de l'homme. Parce que pour connaître le corps de l'homme, il faut connaître son âme. C'est vrai, si je ne connais pas le monde, je connais. C'est ce que je lui dis. Vous connaissez des dispositions du vivant, analogues avec l'animal. Vous connaissez des réactions du vivant, mais vous ne connaissez pas le corps de l'âme. C'est pour ça que votre biologie est tend vers la spécialisation. Alors que votre âme est une. C'est vrai. Je lui dis de regarder le vivant. Vous lisez, vous les regardez. Et vous regardez telle maladie. Et vous croyez connaître le corps de l'âme? Vous connaissez telle maladie. Vous connaissez à peu près la manière dont il faut guérir. C'est très très bien, c'est très très utile quand on est malade. C'est très très utile de savoir ça. Mais vous ne connaissez pas ce que c'est que le corps de l'âme. Pour connaître le corps de l'âme, il faut connaître l'âme. La vraie connaissance du corps de l'homme. Pour connaître que le corps de l'homme n'est pas le corps de l'animal. Un singe, c'est très beau. Mais ça me fait d'autant plus connaître que le corps de l'homme n'est pas le corps du singe. Il faut bien se dire. C'est ces petites expériences qu'on peut faire. Je me souviens, c'était à New York, au zoo de New York, où il y avait beaucoup de monde au zoo de New York, qui est un lieu extraordinaire. Il y avait tellement de monde au singe, c'est au singe évidemment qu'on s'arrête plus longtemps. Il y avait tellement de monde au singe qu'à un moment donné, j'ai changé de perspective. Je me suis mis du côté des singes pour regarder les hommes. C'était très curieux, ça changeait, on voyait très très bien. Vous voyez, c'est quelquefois utile de faire ça, de changer de situation, vous voyez, pour regarder comment les hommes regardaient les singes. Parce que là, j'étais avec les hommes qui regardaient les singes, mon objectif tout d'un coup changeait. C'est très curieux ça, de voir que le singe, qui extérieurement peut être très proche, c'est quand même pas tout à fait la même chose. N'est qu'à faire rire un singe. Vous verrez toute la différence avec le rire d'un enfant et le rire d'un singe. Alors, je ne sais pas si un singe rit. Les singes sont en colère quand vous riez. Donc, surtout pas faire ça avec les singes méchants. Quand vous riez, ils ne comprennent pas. Ils se mettent tout de suite en colère. Tout de suite. Parce qu'ils croient qu'on se moque de lui. C'est évident que vous riez. Alors, ils se mettent en colère tout de suite. C'est-à-dire que l'enfant, vous riez, l'enfant sourit. C'est la première manifestation de l'âme spirituelle dans le corps. C'est le sourire. Avant la parole. C'est très important. Parce que c'est le signe le plus naturel. Un enfant qui ne sourit jamais, il a manqué d'amour. Et donc, son âme n'émerge pas du corps. La première émergence de l'âme sur le corps, c'est le sourire. C'est la première émergence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce sera la dernière aussi. Quelqu'un qui est tout proche de la mort, c'est même très 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 beau ça. Il ne peut plus parler, mais il y a encore un peu, il y a de temps en temps le dernier sourire d'une mère à l'égard de ses enfants, d'un père à l'égard de son épouse. C'est extraordinaire ça. Alors voyez, c'est ça que je veux dire, c'est que l'âme informe le corps, donc elle émerge dans le corps, elle l'informe, elle lui donne sa physionomie. Alors prenez que pour physionomie, le sourire. Hein. Je voudrais faire une philosophie du sourire. J'ai toujours un grand envie de faire ça. La philosophie du sourire. Parce que ce serait le moment, mais ça exprimerait de façon tout à fait descriptive la manière dont l'âme informe le corps. Il y a le sourire, il y a le regard. Le regard d'un saint et le regard d'un homme, c'est pas tout à fait la même chose. Surtout quand cette personne, vous l'aimez. Vous voyez, c'est curieux. Quand vous l'aimez, son regard devient tout à fait particulier. Il parle par ses yeux. Hein? Il parle par ses yeux. C'est quand même assez curieux, ça. Tandis que le saint ne parle pas par ses yeux. Jamais vu ça, moi. Extraordinaire, voilà. Le regard. Vous voyez, toute la physionomie, la figure de l'homme, c'est dans l'âme va informer le corps pour lui faire une figure. C'est la manière dont l'âme informe le corps. Donc, première chose, forme substantielle. Quand je dis forme substantielle, je veux dire qu'entre l'âme et le corps, il y a une unité d'être. Je n'ai pas deux existences, je n'ai qu'une seule existence. Mon existence actuelle, c'est ça, c'est à travers mon corps que j'existe. C'est à travers mon corps que je vis. Et je ne peux pas me séparer de mon corps. Je ne peux pas me séparer de mon corps. On essaiera de voir qu'il peut y avoir certains aspects de l'âme qui sont au-delà, mais il faut d'abord affirmer cette unité substantielle. L'âme est la forme substantielle du corps qui fait qu'il y a une unité d'être. Deuxièmement, l'âme est l'acte. L'âme est l'acte du corps. Un, deux. L'âme est l'acte du corps. Quand je dis que l'âme est l'acte du corps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout mon corps est ordonné à mon âme. Le corps est en puissance à l'égard de l'âme. Et donc tout le corps est ordonné à l'âme. Mon âme n'est pas pour mon corps, mais mon corps est pour mon âme. C'est quand même très important de comprendre ça. Est-ce que vous vivez pour votre corps ou est-ce que vous vivez pour votre âme? Oui, c'est le premier équilibre fondamental. Si vous vivez pour votre corps, vous tombez dans un matérialisme le plus absolu. Et au bout d'un certain temps, votre âme disparaît. Elle est complètement diluée dans votre corps. Et vous ne la voyez plus. Vous vivez pour votre âme. Le corps est pour l'âme. C'est pour ça qu'on dit que l'âme est l'acte du corps. Et en disant ça, je précise que l'âme est la fin du corps. Le finalise. Elle l'actue, elle le finalise. Elle lui donne son sens. Mon corps n'a de sens que par mon âme. La signification profonde de mon corps humain, de mon corps d'homme, c'est mon âme. C'est mon âme qui donne la signification profonde. Philosophiquement, J'ai des connaissances du corps. J'ai des connaissances du corps au niveau connaissance biologique. Je connais tous les organes qui sont en moi au point de vue connaissance biologique. Mais je n'ai pas la signification du corps. La signification du corps humain se fait par là. Et c'est ça qui me donne l'unité, vous voyez ? Très important de comprendre pourquoi, de fait, en médecine, aujourd'hui, tout le monde nous dit, bon, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des spécialistes, et puis il n'y a plus celui qui regarde l'unité. Parce qu'on a perdu le sens de l'art. Alors, ayant perdu le sens de l'art, ben, vous soignez un bras, vous soignez un estomac, vous soignez le foie, vous soignez... mais vous ne soignez plus l'homme. Vous ne soignez plus l'homme. Vous ne soignez plus l'homme. Pour soigner l'homme, il faut regarder l'âme. Il faut regarder l'âme, c'est évident. Et on sait très bien que ce qu'on dit habituellement, le moral est très important pour la convalescence. Le moral est très important pour la convalescence. Le chirurgien ne regarde pas beaucoup l'âme parce qu'il coupe dedans. Alors il ne regarde pas beaucoup l'âme. C'est évident. L'âme est indivisible. On ne l'atteint pas avec le point de vue. Mais le convalescent. Alors le moral est très, très important. Quand on dit le moral, c'est dire là. C'est donc avoir le sens que vous faites, oui, c'est vrai. C'est l'âme qui porte mon corps. C'est ça que ça veut dire quand on dit que l'âme est l'acte du corps. C'est mon âme qui porte mon corps. C'est pas mon corps qui porte mon âme. Oui, mon corps porte mon âme quand mon âme est complètement aplatie. Mais quand mon âme est vivante, source de vie, c'est elle qui porte, c'est elle qui anime le corps, c'est elle qui lui donne sa signification, qui lui donne son orientation, qui lui donne son rythme profond. Et il y a des corps qui ne sont pas habités, des corps humains qui ne sont pas très habités, il y a des corps humains qui sont très habités. C'est la maison de l'âme, le corps, hein, dans un langage heideggerien, on dirait que le corps est la maison de l'âme. Elle est maison de l'âme. Dans une maison, ce qui est important, c'est de voir celui qui y habite. Parce que la maison est pour celui qui habite et non pas celui qui habite pour la maison. Alors on comprend comment, de fait, le corps est un instrument. C'est vrai, c'est un instrument, c'est une maison. Un instrument au sens très fondamental dans lequel l'âme habite. Bon, voilà les quelques rapports entre l'âme et le corps. Vous voyez, c'est un sujet très vaste. Mais je voudrais aborder encore avec vous le sujet propre de ce matin. N'est-ce pas ? Il y a du retard à la lumière. Ne vous inquiétez pas. Parce que si on ne voyait pas ça, on ne verrait pas ce que nous allons essayer de voir maintenant. De voir que dans cette unité du vivant, il y a différents degrés de vie. Dans cette unité du vivant, il y a différents degrés de vie. Alors, il faut essayer de comprendre cela. Vous voyez, je donne tout de suite la conclusion pour que ce soit plus facile à comprendre. Je dis une âme. Nous avons tous une âme substantielle. Et cette âme substantielle va se réaliser selon trois degrés de vie. Alors, ces trois degrés de vie, c'est très ancien. Les premiers qui ont découvert ça, c'est les pythagoriciens. Les trois degrés de vie. C'est les pythagoriciens. Et donc, c'est l'Inde. Les pythagoriciens sont liés à l'Inde. Il y a quelque chose de commun là, entre l'Inde et l'Occident. Et ces trois degrés de vie, on les a gardés jusqu'à Descartes. C'est Descartes qui a fait fusiller ça. Et le Freudien qui est l'ennemi numéro un de Descartes, tout en étant son allié. Le freudisme qui n'a pas été assez loin, là encore, c'est comme le marxisme, on est, ça n'a pas été assez loin. Le freudisme attaque Descartes. On ne peut pas être freudien et cartésien. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'inconscient. Et Descartes, c'est le conscient. Alors vous avez la philosophie du conscient et la philosophie de l'inconscient. Et ça se regarde comme un chien. Et chat. Je ne sais pas quel est le chien. Le chat, ça, c'est vous qui prenez, mais ça se regarde comme chien et chat. Conscient et inconscient. Et c'est vrai, c'est deux choses absolument impossibles. Si je suis dans le primat de l'inconscient, je ne peux plus être cartésien. C'est impossible. Ce que Descartes, c'est de priver du conscient. Alors, il faut dépasser les deux pour voir les erreurs des deux. Et pour aller plus loin, c'est ce que vient de faire. Donc, nous sommes obligés aujourd'hui, si nous voulons répondre à Descartes et répondre à Freud, de revenir à cette notion très fondamentale des trois degrés de vie. C'est du reste l'expérience, hein, vous allez essayer de comprendre. Hein. Hier, je vous disais, alors nous allons essayer de comprendre ces trois degrés de vie. Dans l'unité, la petite trinité, vous voyez, dans l'unité substantielle de notre être, dans l'unité substantielle de notre vie, il y a trois orientations, trois dimensions. Je vous disais hier qu'il fallait toujours regarder la diversité de nos opérations vitales. Bon. J'ai dormi cette nuit, j'espère. J'ai dormi. C'est une opération vitale. Seul le vivant se repose. Les biologistes peuvent dire ça, c'est très beau, c'est une des notions qui est très très belle, ça. Seul le vivant se repose. Vous voyez, quand vous vous reposez, vous manifestez que vous êtes un vivant. Dites-vous bien ça. Vous enlèvez tous les complexes pour vous reposer. Seul le vivant se repose. Le physique pur ne se repose jamais. Il n'y a pas de repos dans le physique. Il y a un pur devenir. Tandis que dans le vivant, parce qu'il y a une durée. Oui, la durée appelle le repos. C'est très très curieux ça. Le vivant se repose. Le vivant est capable de se reposer. Il y a un rythme dans le vivant. Alors, il y a le repos, et puis il y a être réveillé. Il y a la nuit et le jour. La nuit et le jour, c'est pour le vivant, vous savez. C'est pas pour le physique. Le monde physique n'aurait pas besoin du jour et de la nuit. Tandis que c'est le rythme profond du vivant. C'est important de comprendre ces choses-là. C'est le rythme profond. Donc, il y a un repos. Enfin, je commence par là, vous voyez, à Seigneur du bonheur. Hein. Alors, je commence par le repos. Il y a un repos. Je ne dis pas que c'est ce qui est le plus parfait, hein, mais il y a un repos. Et puis, il y a le fait de s'alimenter, la nutrition. On se nourrit, toute la philosophie de l'aliment. On respire, tout en dormant, tout en se reposant, on continue de respirer. Vous voyez, la machine continue de respirer. Parce que c'est nécessaire pour qu'il y ait un repos. Ce qui montre bien que le repos fait partie de la vie. Donc la nutrition, il y a la procréation. Voilà les grandes opérations. Puis qu'est-ce qu'il y a? Alors là, je dirais, nous allons détecter que toutes ces opérations forment le premier degré de vie. On va essayer de comprendre comment on fait cette analyse. Premier degré de vie. Nous sommes analogues, comprenez bien, nous sommes analogues à la plante. Il y a en nous quelque chose qui fait qu'on est une plante. Une plante dans le jardin de Dieu. On est une plante. Il y a en nous quelque chose qui est de l'ordre de la vie végétative. C'est ce qu'on appelle la vie végétative. Cette vie végétative, elle est fondamentale en nous. Hein, tout à fait fondamentale. Commençons par la vie végétative, ce que vous disiez hier. Ça, c'est très très. Et nous terminerons par la vie végétative. C'est sûr. Deuxièmement, il y a la connaissance. Ça, c'est tout à fait particulier, quelque chose de nouveau. Alors, vous allez me dire, il y a des petites plantes sensitives. Oui, il y a des petites plantes sensitives. Ça, c'est très très difficile de savoir exactement ce que c'est que des petites plantes sensitives. Mais ce qui est sûr, c'est que, vous voyez, ici, je parle des frontières, c'est très difficile. Hein, les frontières, c'est très difficile. C'est pas ça qui intéresse le philosophe en premier lieu. C'est pas ça qui intéresse ce philosophe. Puisqu'il parle de l'homme. Il ne faut jamais oublier ça. Il parle de l'homme. Alors, quand il parle de l'homme, c'est facile. Nous savons très bien que quand nous mangeons, ce n'est pas tout à fait la même chose que dormir. Normalement. On peut faire une nourriture pour qu'on nous goûte même quand on dort. Mais normalement, quand on mange et qu'on dort, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on commence à sentir, l'odeur du café délectable, n'est-ce pas? On voit très bien que la connaissance est là pour augmenter l'appétit. La connaissance augmente l'appétit. Connaissance sensible. Donc il y a tout un domaine de connaissance sensible. Les cinq sensations extérieures. Puis alors, il y a l'imagination, il y a la mémoire, tout ça, un domaine très cru, multiple. C'est un domaine d'une immanence. Là, il y a la durée. Le vivant, par sa vie végétative, dure. Il y a une durée du vivant. Là, il y a une immanence. Pas tout à fait la même chose. La première intériorité, la première immanence. Je suis dans le domaine de la connaissance sensible. On dira deuxième degré de vie, c'est la vie sensible. Je dis vie sensible. On dira habituellement la vie animale, mais j'aime mieux dire vie sensible, c'est quand même un peu plus élégant, n'est-ce pas ? Parce que quand vous sentez le jus de chocolat, vous ne dites pas c'est le petit animal qui sent. Non, c'est la vie sensible. Mais c'est la même chose. Troisième degré de vie, la vie spirituelle. C'est très difficile de dire troisième degré de vie, parce que j'aime pas dire vie intellectuelle, c'est la vie spirituelle, c'est la vie au-delà de la connaissance sensible. Alors si c'est la connaissance du cogito, je mets le cogito, je pense, je juge. Et puis, il y a la volonté. Comme ici, il y a les passions. Et puis, il y a la volonté. Alors, vous allez me dire, mais à propos, vous faites cette distinction d'une façon a priori? Non. Je ne fais pas cette distinction d'une façon a priori. J'étudie et j'analyse les diverses opérations vitales qui sont en moi, pour distinguer ces points de vue-là. Et je vois que certaines opérations sont liées au monde physique d'une manière telle qu'elles sont substantiellement liées à ce monde physique. C'est tout le domaine des opérations de la vie végétative. Je vois que d'autres opérations, quand il s'agit de la connaissance, vous allez tout de suite comprendre, c'est très... C'est assez facile à comprendre, vous n'avez qu'à comparer tout simplement le fait de regarder une rose. Non, je prends un autre exemple qui me frappera plus. N'est-ce pas ? Le petit matin, vous passez devant la boulangerie. Vous sentez l'odeur des petits pains frais. N'est-ce pas ? Vous sentez l'odeur des petits pains frais. Alors, si vous sentez l'odeur des petits pains frais, ça aiguise votre appétit. Mais vous n'allez pas dire, je vais rester là un quart d'heure, j'aurai pris mon petit déjeuner. Vous sentez très bien, quelqu'un vous dirait, moi j'ai pas besoin de prendre mon petit déjeuner, j'ai besoin uniquement d'aller tous les matins un quart d'heure auprès de cette boulangerie. Je respire, merveilleux, merveilleux. Au bout d'un quart d'heure, je suis satisfait, ça va. Vous verriez la mère de ce gosse qui dirait, non, je ne sais pas ça, ça va me nourrir. Ah oui, moi ça me nourrit. Un petit artiste pourrait dire ça. Ça me extraordinaire. J'aime beaucoup mieux ça, sentir cette odeur que de manger mon petit pain. J'ai bien plus de joie de sentir cette odeur que de manger mon petit pain. Vous voyez tout de suite ces deux domaines. Là, vous voyez la différence. Manger son petit pain, vie végétative. Sentir l'odeur du petit pain. Et voyez tout de suite la différence qui existe entre les deux. Quand vous mangez votre petit pain, vous vous nourrissez. Vous mangez votre petit pain. Et le petit pain, il se transforme en vous. Il se transforme dans votre vie biologique. Après toute une série d'opérations, il se transforme dans votre vie biologique. Tandis qu'au contraire, quand vous sentez l'odeur des petits pains, les petits pains restent exactement les mêmes. Le boulanger ne peut pas vous dire, écoutez, hein, vous êtes resté là un quart d'heure, vous avez pris votre petit déjeuner, c'est temps. Vous savez, le vieux dicton qu'on fait comme ça, parce que ça existe, c'est comme petite histoire merveilleuse, n'est-ce pas? Alors, le boulanger dit, ah, vous avez eu... Alors, vous savez ce que fait l'autre? Il prend de sa poche un écu et puis il le fait sentir. Voilà. Ben non. C'est dans l'ordre de l'intentionnalité. Voici ce qu'on appelle ça, le domaine de l'intentionnalité. C'est merveilleux. Il dit, vous êtes resté là un quart d'heure, vous me devez tant. Ah bon, très très bien. Je prends un écu, puis je le fais sentir, taper sur le fer. Voilà. Voilà mon écu. Vous l'avez entendu. Donc on écoute. Vous voyez la différence entre... Pour que vous compreniez la différence entre le domaine de la connaissance sensible et le domaine de la connaissance végétative. Le réalisme du végétatif et l'intentionnalité du domaine de la connaissance. Il y a là deux domaines quand même qu'il faut essayer de comprendre. Hein? Alors comprenez bien que l'un peut aller sans l'autre et l'autre ne peut pas aller sans l'autre. Le végétatif peut exister sans l'intentionnel quand je dors. Elle-même, quand je dors. Il y a des rêves. Et les rêves, c'est à l'intérieur du repos. Et des cauchemars, c'est à l'intérieur du repos. Ah, c'est curieux. Alors, est-ce que je peux arriver à séparer complètement le végétatif de l'intentionnel? Est-ce que je peux arriver à ça? Je vois bien la distinction, hein. Je vois bien qu'il y a deux distinctions tout à fait différentes. Je prends l'opération de la nutrition, l'opération de l'assimilation dans le fait de nourrir, manger le petit pain, et le fait de sentir. Je crois que là, on peut tous voir la différence entre les deux. Alors, si je réfléchis là-dessus, je vois que d'un côté, le vivant est lié à la matière, il est lié au monde physique. La vie végétative se réalise dans le monde physique. C'est ce qu'on appelle la vie biologique. La vie biologique se réalise à l'intérieur du monde physique. Quand il s'agit de cet autre degré de connaissance, quand il s'agit de cet autre degré de vie qui est la connaissance sensible, ah, là apparaît l'intentionnalité. L'intentionnalité apparaît. Il y a la connaissance sensible. Et puis cette intentionnalité apparaît d'une manière encore beaucoup plus profonde dans la connaissance intellectuelle et dans l'amour spirituel. Il y a un nouveau degré d'intentionnalité. Alors, comment va-t-on distinguer? Bon, ici, je suis lié substantiellement au monde physique. Avec le domaine de la connaissance sensible, j'entre dans le domaine de l'intentionnalité. On va essayer d'expliquer ce que c'est que l'intentionnalité, parce que c'est très important. Le domaine du monde, la substance physique, le domaine de l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est ça. Quand je regarde une rose, je ne modifie pas la rose. Quand je mange le petit pain, je le transforme. Okay. On voit très bien le réalisme de la vie biologique qui transforme l'aliment. Tandis que le respect et la distinction de la connaissance sensible, qui fait que j'en regarde la rose ne rougit pas. Mais c'est moi qui rougis. Je suis transformé par la rose et je ne la transforme pas. Sauf si j'ai le mauvais œil. Ça fait bien. Si on a le mauvais œil, c'est très très dangereux. Je me souviens, c'était en Suisse, du côté de Châtel. J'entrais dans le train, il y avait là des gens. J'étais en curé. Immédiatement, oh, j'ai du bois. Alors j'ai crié plus fort. Oh, ça n'a aucune importance, je l'ai vu avant qu'il touche le bois. Il a blémi. Mais j'ai été vers lui, je lui dis, espèce d'imbécile, vous voyez pas ce que je vous ai dit? J'ai le mauvais œil, que voulez-vous? Là, j'ai fait comprendre ce que c'est qu'avoir le mauvais œil. C'était de la superstition. Je n'avais pas le mauvais œil du tout. C'est pas parce que je le regardais que avant qu'il touche le bois, qu'il allait être condamné, je ne sais pas trop quoi, le mauvais œil durant toute sa vie. Le mauvais œil, c'est quoi? C'est, vous voyez la confusion entre le domaine. C'est très curieux, c'est très intéressant. C'est la confusion du domaine végétatif vers le domaine intellectuel. On se matérialise. C'est ça la superstition. On se matérialise. Alors on croit que regarder quelqu'un, eh bien, va lui projeter des choses mauvaises. Oui, quand je regarde quelqu'un d'une façon fixe, il peut rougir, ça, c'est normal. Ça, c'est autre chose. C'est une autre chose, parce qu'il y a une présence particulière. Je montre l'attention que j'ai pour quelqu'un, là, il peut rougir, ça peut arriver. Mais regarder la rose ne modifie pas la rose. On peut être sans à regarder un tableau, et le tableau n'est pas usé à cause de ça. Tandis que si on est sans à manger le petit pain, il n'y a plus que des miettes. Donc, la connaissance, le propre de la connaissance intentionnelle, le propre de la connaissance sensible, c'est de ne pas modifier la réalité connue. Mais c'est moi qui est modifié par la réalité connue. Et je suis donc beaucoup plus libre par rapport à la réalité physique, par rapport au monde physique. Je m'intériorise. Voilà ce que c'est que le premier moment de l'intériorité. Je m'intériorise par la connaissance parce que je porte ce qui est à l'extérieur au-dedans de moi-même sans le modifier. Alors, troisième moment, la connaissance sensible demeure dépendante de la présence des réalités qui sont là. Je peux évidemment imaginer la rose quand la rose est absente. Je sais très bien que l'imagination ne remplace jamais la sensation directe. Sartre a dit des choses très intéressantes là-dessus. Dans ce domaine-là, il était très très clair. Dans le domaine d'essayer de comprendre qu'il y a quand même quelque chose de très différent. Alors il l'a pris de façon très astucieuse, du reste. Quand il a vu que, de fait, quand je regarde un paysage, je ferme les yeux, je me représente ce paysage. C'est pas tout à fait la même chose. Et moi, j'ai plus besoin de voyager, il n'y a plus qu'à me représenter. Je vais à Louvain, je me représente Louvain. Je n'ai pas besoin d'y aller. Quelqu'un qui commence à vous dire ça, commence un tout petit peu à oublier ce que c'est que le contact direct avec la réalité. Pas besoin de prendre un bain, imagine. La douche tombe sur moi. Pas besoin. Oui. La réalité sensible et l'imaginaire, pas la même chose. L'imaginaire, on se représente, mais on est toujours dépendant de la sensation. L'imagination dépend toujours de la sensation, et donc on dépend toujours du monde physique. Tandis que quand il s'agit de la connaissance intellectuelle, on dépend bien de l'expérience, on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a quelque chose de nouveau, c'est le domaine de la signification universelle. Alors vous voyez, c'est là où on peut distinguer le domaine de la représentation et le domaine de la signification. Et donc il y a dans la connaissance intellectuelle quelque chose qui va plus loin, plus profondément, je peux atteindre quelque chose d'universel. J'atteins quelque chose d'universel. Tandis que dans la connaissance sensible, imaginative et la sensation, je demeure toujours dans le singulier et l'individu. Nous avons donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant à voir, nous avons donc trois domaines d'opération vitale en nous, trois degrés de vie. Ces trois degrés de vie, ça s'emboîte, vous voyez, comme le petit cornet. Il y en a un qui est fondamental, il y en a un autre qui est intermédiaire, puis un sommet. Et ces trois degrés de vie, comprenons bien, c'est une distinction que nous faisons, ce n'est pas une séparation. Je ne peux pas couper ma vie intellectuelle, spirituelle, en disant que je vais vivre uniquement des autres. Impossible. Il y a une unité profonde dans ces trois degrés de vie. Mais il y a une distinction que je fais dans l'analyse. Donc, ces trois degrés de vie reposent sur une distinction que je fais, une distinction réelle. Autre chose est la sensation, autre chose la nutrition, autre chose la pensée et autre chose l'imagination. J'arrive petit à petit à distinguer qu'il y a en moi différents degrés de vie. Alors, où la vie est-elle le plus la vie? C'est ça qui est intéressant. Une fois que j'ai vu la diversité et que je vois l'unité, je vais essayer d'ordonner. Dès qu'on est dans la diversité et l'unité, il faut essayer d'ordonner. Où est-ce que la vie est la plus vie? Est-ce que c'est dans la vie végétative? Est-ce que c'est dans la vie sensible? Est-ce que c'est dans la vie de l'esprit? Vous voyez que là, tout de suite, hein, il va y avoir une orientation philosophique. Je dois reconnaître que ces trois degrés de vie ont chacun de ces degrés, ont quelque chose d'irréductible par rapport aux autres. Donc, je ne peux pas dire, il y en a un qui remplace tous les autres. Non. Il y a quelque chose d'irréductible. La vie végétative a ce caractère tout à fait particulier, c'est qu'elle a un réalisme fondamental, substantiel. Ça tient la route. La vie végétative, c'est quelque chose de fondamental et substantiel. Je dirais, c'est la base, hein. C'est le fondement, c'est bien évident. Je ne mets pas ça en doute. À moins vraiment d'être un petit peu déjà très très contaminé par des idéologies. Et je ne mets pas en doute quand même la vie végétative. Je sais très bien que mon corps, ben oui, indispensable de ma vie. La vie sensible. Elle a, surtout avec les passions, elle a cet immense avantage d'avoir pour moi quelque chose de particulièrement conscient. Je suis très conscient des sensations. Je suis très conscient de la passion, de mes passions. Donc j'ai une conscience très très forte et véhémente de ma vie sensible. La vie sensible n'a pas l'aspect radical de la vie végétative, mais elle a une véhémence qui est tout à fait particulière. Un être passionné, c'est quand même quelque chose de beau. C'est pas commun, mais c'est beau. La vie spirituelle, ah, c'est celle qui, elle vient en dernier lieu. C'est Benjamin, vous voyez, ou la Benjamine, n'est-ce pas ? C'est la plus fragile. C'est vrai, c'est la plus fragile. Mais c'est en même temps celle qui va le plus loin. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à ma vie spirituelle que je vais découvrir que je suis une personne qui a sa propre finalité. C'est pour ça que chacune de ces degrés de vie ont leur caractère propre. Et la vie spirituelle va me permettre d'avoir un regard où je suis autonome. Je suis autonome parce que je suis capable d'atteindre l'universel. Je suis capable d'atteindre des principes. Donc j'ai une certaine autonomie profondément dans ma vie spirituelle. Grâce à l'intelligence, j'ai une certaine autonomie. Et la vie, faire un peu de philosophie augmente votre autonomie. Parce que ça éveille votre intelligence, ça éveille votre esprit. Faire éveiller notre esprit et notre intelligence nous permet d'aller plus loin dans la volonté. D'éveiller notre capacité d'aimer. Et en éveillant notre capacité d'aimer, de comprendre ce pourquoi nous sommes faits. Donc notre finalité. C'est grâce à la vie spirituelle que la vie humaine prend sa signification. Pourquoi aujourd'hui des quantités se demandent « qu'est-ce que ça signifie l'homme ? Qu'est-ce que ça signifie la vie humaine ?» C'est parce que justement, la vie spirituelle est comme entièrement inhibée dans la vie sensible. Il y a trois caractères différents, vous voyez, et trois qualités différentes de ces trois vies. Elles ne sont pas rivales les unes par rapport aux autres. Elles peuvent l'être. Parce que j'ai un seul capital de vie. Je n'ai qu'une seule âme. Et donc je n'ai qu'une seule source. Alors si ma vie végétative devient trop plantureuse, n'est-ce pas ? Si ma vie végétative devient trop plantureuse, c'est ces plantes grasses, extraordinaires. Hein? Si ma vie végétative devient trop plantureuse, elle peut arriver d'une certaine manière à tout calculer. Alors ma sensibilité est engluée dans l'huile. Voir ma sensibilité, il y a trop d'huile, que voulez-vous, il y a trop de graisse, ça ne va plus. Alors je suis complètement englué. Je ne suis pas totalement, il y a toujours la sensation, mais il y a quelque chose qui ne se fait plus. Le capital de vie peut très bien être entièrement pris par la vie végétative. Ça peut exister. Normalement, le capital de vie se sert de la vie végétative pour la vie sensible. Si ma vie sensible et ma vie passionnelle sont trop épanouies, ma vie de l'esprit ne pourra pas. Et c'est là où on voit la taille. Je dois prendre conscience, c'est ça le propre de la personne humaine, je dois prendre conscience que mon capital de vie est unique. Et ce capital de vie va s'épanouir diversement dans ma vie végétative, dans ma vie sensible et passionnelle, dans ma vie intellectuelle. Je peux accorder du temps à l'étude, à la méditation. Je peux accorder du temps à l'amitié. Je peux accorder du temps aux passions. Je peux accorder du temps à ma vie végétative et sportive. Oui. Je peux accorder du temps, c'est très bien. On s'éduque soi-même. Et au fond, l'éducation, vous voyez bien, l'éducation, c'est d'harmoniser ces trois degrés de vie. C'est d'harmoniser ces trois degrés de vie. Le petit gosse, très vite, de faire sortir de sa vie végétative par la présence pour éveiller ses sensations. Quand il n'a pas de présence, le petit gosse, il dort tout le temps, il mange tout le temps, fait que ça. Et là, vous essayez de sortir de sa vie végétative pour le faire entrer dans une vie qui est d'ordre sensible. Et puis, par la vie sensible, éveiller une présence. Et par là, éveiller son esprit. Par l'affectivité. Vous voyez, c'est au fond ces trois vies, elles se tiennent l'une dans l'autre, inséparables. Alors, une fois qu'on a saisi ces trois vies, je vois.